Et maintenant, nous allons laisser la parole à Marie-Madeleine et à ses invités qui présentent notamment l'exposition qui se trouve à Canal Sud et le collectif Artifocal, et puis un livre Joseph Carré Tarek.
Voilà, mes invités sont arrivés, à savoir Joseph Carré Tarek, écrivain qui se présente comme écrivain public. Et c'est pour un livre intitulé « Marie-Rose, Marguerite et l'écrivain public » édité aux éditions Hasard, Atelier Édition. Et son fils, Christophe Carré, qui entre autres expose en ce moment à Canal Sud, et ce jusqu'à la fin du mois. Et c'est afin d'évoquer notamment la présentation du livre, mais aussi la soirée qui se déroulera ce soir dans les locaux de Canal Sud, dans la salle d'exposition, à savoir la présentation, la signature du livre, bien sûr en présence de l'auteur, puisqu'il est déjà là, du photographe, puisqu'il faut préciser que dans le livre, il y a des photos de famille qui ont été numérisées et puis donc incluses dans le livre. Ce soir, il y aura aussi l'éditrice Danielle Roublin-Triquer, et ensuite, il y aura aussi Frédéric Gambin, qui est un poète et qui dira des poèmes. Tout ça ce soir à partir de 19h30, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Bonjour. Et donc là, nous avons Joseph Carré Tarek, l'écrivain, et Christophe Carré, le photographe, pour évoquer le livre et ensuite aussi l'association Artifocal.
Et bonjour.
Bonjour à tous les deux. Donc peut-être nous allons faire un petit peu connaissance. Donc vous êtes un professeur de français à la retraite.
Oui.
Voilà. Vous venez de la région d'Avignon, enfin pour faire simple, comme ça tout le monde situe à peu près.
Oui, ouais. Absolument.
Voilà. Donc, apparemment vous avez un amour des mots, un amour de l'écriture, puisque vous vous définissez comme écrivain public. Alors tout à l'heure hors micro, je vous ai demandé si vous étiez écrivain public de façon régulière, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des écrivains publics professionnels qui ont un bureau, enfin qui voilà, à qui on fait des commandes, à qui on demande de faire des choses, notamment des écrits administratifs. Et ensuite il y a des écrivains publics des fois au sein de certaines familles, parce que ce sont des gens qui manient la plume mieux que d'autres, et donc à qui on demande soit de relater des faits, ou aussi certains écrivains publics justement racontent l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Et donc je voulais savoir, vous, dans quel pourquoi vous êtes attaché au terme d'écrivain public, s'il vous plaît?
J'aime bien ce terme-là parce que ça implique que les mots ont une puissance sociale. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était dans un quartier pauvre d'Avignon, et mon travail, ça consistait à présenter aux enfants les mots. Je ne dirais pas comme des armes, c'est un peu fort, mais presque. Je veux dire comment des mots servent à se défendre, comment des mots servent à s'intégrer. Mmh. Voilà, les mots étaient comme ça. Quand je suis passé après, parce que...
Vous étiez dans un collège ?
J'étais dans un collège ZEP.
D'accord.
Et en 81, on a trouvé que je serais mieux dans un lycée classique, un lycée de filles classique. Et là, ça a été la même chose, mais avait des ateliers d'écriture.
C'est-à-dire que vous faisiez des ateliers d'écriture au sein du lycée ?
Au sein du lycée, ou dans les assos autour, mais bon, il y a eu toujours une quinzaine d'élèves par an, mm-hmm, qui participaient à ce travail de recherche sur les mots et sur les expressions pour faire des ateliers d'écriture.
Rédiger des écrits.
Soit rédiger leurs poèmes, ce qu'ils avaient à dire, soit rédiger leur récit, etc. Mais rédiger, c'était, pour moi, là aussi, les mots avaient une valeur sociale.
Mmh. Oui, bien sûr. Oui. Mais oui, de toute façon, quand un individu possède la langue, il peut mieux se défendre et mieux avancer dans la vie que quelqu'un qui ne connaît pas le sens des mots. C'est une évidence, quoi. Le problème, c'est que tout le monde, malheureusement, ne connaît pas toujours le sens exact des mots. Et...
Oui, ne connaît pas le sens exact et ne connaît pas...
Et la syntaxe, en plus. Enfin,
et la puissance des mots aussi.
Oui,
je veux dire, entre un élève qui baisse la tête sans rien dire et un élève qui répond n'importe quoi et un élève qui sait ce qu'il va répondre. Quand on lui dit, par exemple, tu as laissé ton vélo au milieu, voilà, il y a trois styles de réponse. On baisse la tête, on dit n'importe quoi, ou bien on argumente. Et l'argumentation, pour moi, c'était des mots qui avaient une valeur sociale. Voilà.
D'accord. Et je voulais savoir, dont vous avez été professeur de français, et quel a été votre parcours ? Vous avez fait vos études en Avignon ou...
J'ai fait mes études en partie à Montpellier. Bon, une bonne vieille licence de lettres modernes, assez tranquille. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, je me suis inscrit en fac à Aix pour faire sociolinguistique, pour faire des choses plus intéressantes. Et là, j'ai passé des diplômes divers et variés.
Ayant entré à l'éducation, à l'enseignement, toujours de loin ou de près, c'est ça ?
Ayant entré à la connaissance du français. Mais comme c'était pendant que j'enseignais, je me souviens très bien que mes élèves de 4e, par exemple, participaient aux enquêtes que je faisais, soit sur le lexique, soit même sur la grammaire.
D'accord.
Et les inspecteurs restaient bavards en me disant, mais... Comment vous arrivez à faire des choses pareilles avec des élèves de 4e ? C'était très intéressant.
Comme quoi, tout est dans la façon de présenter et d'intéresser.
Oui.
C'est-à-dire que vous les aviez amenés dans votre sillage, comme
oui,
si
oui,
je puis
moi
dire.
Oui, j'étais très, très, très passionné, très impliqué, très motivé.
Et diriez-vous que, de toute façon, la fonction de professeur, et notamment de professeur de français, selon votre conception, selon la façon dont vous l'avez exercé, ça a aussi une fonction politique. Au sens noble du terme.
Oui, absolument. La preuve, c'est que, j'espère qu'on pourra le prouver ce soir, on peut aller avec ce langage-là jusqu'au théâtre forum, inventé par Auguste Boal, pour... qui peut être un théâtre psychologique assez mièvre, mais qui peut être aussi du théâtre de l'opprimé. Voilà, donc effectivement, l'étude de la langue, ça mène. Je cherche d'ailleurs le nom de ce journal, Les mots ont leur importance, c'est pas ça ?
Peu importe. Vous dire, c'est un anthropologue qui vient de l'écrire, là, il n'y a pas très longtemps ? Ou pas ?
Non, c'est un journal qu'on trouve sur le net, les mots sont importants, je crois que ça s'appelle.
Ah, d'accord, mais... ça, je sais pas.
Bon, peu importe.
Non, parce qu'il y a un anthropologue qui a écrit un petit livre, là, il n'y a pas très longtemps, enfin, fin 2014, début 2015, sur l'importance des mots et quand les mots étaient dévoyés, ce que cela supposait. Voilà, c'est pour ça que je pensais à ça.
Non, je ne connais pas, mais ça a l'air intéressant, effectivement.
D'accord, j'essaierai de retrouver le... Parce que je ne l'ai pas de tête, là, mais... Il était venu à Toulouse, fin 2015, dans un petit théâtre qui s'appelle Le Vent des Signes, pour présenter ce livre, donc, autour des... Mais c'est un tout petit recueil.
Et pour arriver au livre...
Attendez, je n'ai pas fini, pardon.
Oh, pardon.
J'ai vu qu'en lisant le livre, parce que j'ai lu, que vous aviez été aussi enseignant en Tunisie, je voulais savoir dans quelles circonstances c'était
service civil à l'époque.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller...
Mais vous êtes resté assez longtemps.
Trois ans,
d'accord.
Et on rencontrait...
Dans un lycée français, j'imagine. Enfin...
Non, dans un lycée, c'était des accords avec le gouvernement tunisien. Bon, on était payés un peu, quoi.
Et... Un peu plus à l'époque, il me semble que les enseignants qui enseignaient français, qui enseignaient hors de France, étaient avantagés...
Par rapport aux locaux.
Aux ceux qui restaient en France.
Ah non, non parce
financièrement, ils n'étaient pas...
Non, ça c'était vrai pour les expatriés. Mais ce n'était pas vrai pour les militaires, entre guillemets, pour ceux qui faisaient leur service civil.
Ah d'accord, oui.
Non, il y avait une rémunération qui était entre... entre celle d'un enseignant normal, entre guillemets.
C'est quoi un enseignant normal ?
Enseignant en France.
D'accord.
Et non, parce que je pensais, et ce qu'on va donner aux petits soldats que Hollande veut engager à 500 euros par mois, quoi.
Ah oui, d'accord.
On était entre les deux.
D'accord, ok.
J'apprends plein de choses, c'est intéressant.
Oh, ben c'est bien, mais écoutez, on apprend tous les jours, hein, de toute façon. Et donc, quand vous étiez, parce que ça m'intéresse aussi de savoir, puisque après, au cours du livre, enfin notamment vers la fin du livre, vous dites votre amour, vous chantez pratiquement votre amour pour la Méditerranée et tous les pays du pourtour méditerranéen. Donc je voulais savoir, en tant qu'enseignant en Tunisie, comment aviez-vous vécu ce passage d'être enseignant hors de France ? D'un point de vue personnel.
Bon, on avait beaucoup de travail.
Oui, ça j'imagine.
Dans le lycée technique où j'étais. On avait beaucoup de fiesta avec les copains aussi, parce qu'il faisait beau, etc.
Il y avait le soleil.
Et on avait aussi des projets. Par exemple, on avait essayé de monter le cercle de cré caucasien de Brest.
Mmh. Ah oui.
Mmh. Avec une centaine d'élèves tunisiens, peut-être, et une vingtaine de profs. Mmh. Donc, j'avais pas eu le temps de prendre tellement conscience. C'est peut-être après que j'ai pris conscience, quand je suis revenu en France, que j'ai rencontré mon ami libanais, quand je suis allé au Liban Sud, après les bombardements. Mmh. C'est plutôt là que la conscience est arrivée. Mmh. Conscience que j'étais profondément méditerranéen, profondément.
Mmh. D'accord. Que c'était ancré en vous, vous voulez dire ?
Oui.
C'était quelque chose de viscéral.
Absolument.
Si j'ai bien compris. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré d'autres écrivains méditerranéens ou d'autres poètes ?
Pour tout vous dire, je crois que mon ami, il a un peu... c'est un peu l'arbre, mais c'est dans le bon sens du terme, qui a caché la forêt.
D'accord.
Parce qu'on est partis ensemble à raconter des histoires. Mmh. Lui, il racontait l'invasion israélienne. Moi, je racontais un peu ce qu'il y a dans le livre, les souvenirs de mes grands-parents par rapport aux guerres diverses. Donc, on s'est croisés beaucoup. Après, on a lu Mahmoud Darwish, lui en arabe, moi, je lisais les traductions en français. On a travaillé beaucoup ensemble de façon très intéressante. Après, on s'était adjoint un copain persan qui nous a enrichi de la littérature persane, passée et actuelle. Donc c'était très intéressant. Donc je n'ai pas beaucoup vu d'autres enseignants. Je suis un peu, comment on dit, absolutiste, non ?
Monomaniaque, quoi. D'accord, non, mais c'est une question comme ça. Comme...
Oui, oui, mais enfin, bon, j'accepte le monomaniaque, si vous voulez.
Donc maintenant, pour en revenir au livre que vous allez présenter ce soir, le signer, et puis ensuite, il y a, vous m'arrêtez si je me trompe, dont vous présentez votre livre, il y a la signature en présence de l'éditrice, ensuite il y a un repas, et ensuite il y a un spectacle de poèmes à partir de votre livre, c'est bien cela ? Vous n'étiez pas au courant ?
Oui, oui, oui.
Ah, sinon, parce que je vous vois tous les deux.
C'est tout un programme qu'on a mis en place, en fait.
Est-ce que je dis quelque chose de. Et je vais en profiter juste en deux mots pour représenter dont les éditions Hasard. Alors, Hasard, c'est A-Z, apostrophe, et puis Art. Donc, qui est une jeune maison d'édition, puisqu'elle a 3 ans. Donc, c'est Daniel Roublin. Triquière, pardon, qu'il a créé pour des raisons très très personnelles et qui lui sont très chères. Et pour l'instant, elle a à peu près édité une vingtaine de livres, avec notamment de la littérature enfantine, qui est très important pour moi, aussi des récits, et puis ce qu'elle appelle, elle, des inclassables. Enfin, c'est elle qui me l'a dit, donc je répète. Voilà. Et donc, c'est Chantal Blanc, comment s'appelle-t-elle, la dame Blanc ?
Alors, donc Madame Blanc-Pin, voilà. Qui est ma cofondatrice d'Artifocal.
Et qui expose en ce moment à Canal Sud, et donc voilà. Qui avait été édité aux éditions Hasard, et donc c'est comme ça que le...
Chantal a mené plusieurs projets avec Hasard Atelier, notamment ils avaient une péniche à
d'allier toujours à Montgiscard.
Ils organisaient des salons d'art, ouais. Et notamment avec les livres. Mm-hmm. Et quand mon papa a parlé d'éditer ce livre qui était dans ses cartons depuis des années, on a... Du coup, j'ai contacté Chantal et Daniel, et du coup, on a pu faire le livre avec eux. Voilà.
L'éditer.
Voilà.
D'accord.
Moi, j'ai accepté la bonne adresse et je la donne même. Par exemple, mes amis pro-palestiniens de Nîmes veulent écrire le récit d'un succès. Donc, je les ai adressés à Daniel.
D'accord. Donc, vous donnez le lien, si je puis dire.
Oui, oui.
D'accord. Donc maintenant, pour revenir au livre qui s'appelle Marie-Rose, Marguerite et l'écrivain public, dont l'écrivain public c'est vous, les deux dames, ce sont
deux de vos tantes qui avaient dans les années 80, j'espère pas me tromper dans les chiffres, votre maman est décédée, et c'est là que vous êtes dit, enfin, je suppose, qu'il y avait des... Quand une personne quitte ce monde, il y a bien sûr des choses qui s'en vont avec elle, des souvenirs qui s'envolent, et puis bon, il y a aussi des fois des non-dits. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'aller interviewer, puisqu'en fait ça s'est passé sous forme d'interview, vos deux tantes, qui avaient donc un certain âge, et plus précisément, qui étaient jeunes, donc en 1914, et vous avez commencé les entretiens à partir de là. Qu'est-ce qui se passait en 1914 dans votre village? Comment le viviez-vous? Qu'est-ce que cela supposait? C'est bien ça le point de départ.
Absolument. D'accord. Mais là aussi, quoi, j'avais fait cette interview, j'avais donc deux cassettes, assez pénibles à transcrire d'ailleurs, mais peu importe.
Non, mais c'est très difficile de toute façon. Déjà, parce qu'il y a... L'enregistrement, c'est une chose, mais alors après, le transcrire mot à mot, c'est... Parce que déjà, ça prend du temps. Ensuite, il faut réécouter, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins audibles.
Mais oui, parce que...
Et puis après, il y a un décalage au niveau du temps, quoi, de toute façon.
Il y avait le temps de 14 et 18. Mmh. Il y avait le temps de l'enregistrement de mes tantes, 80-86. Mmh. Et il y avait le temps récent, là, 2014, où j'écrivais ce qui était dit. Mmh. Alors bon, je me moquais de moi en disant, ça y est, tu refais le temps retrouvé, quoi, mmh. Tu vois, j'étais très fier de moi. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que ces mots-là, comme je le disais tout à l'heure, étaient importants. Mmh. Mais il y avait une difficulté, c'est que ces mots sont importants, mais ils n'en ont pas l'air, quoi. Mm-hmm. On dirait la veillée des chaumières. C'est d'une simplicité absolument infantile.
Parce qu'il faut préciser que vous avez retranscrit tel quel.
Absolument.
Ah, vous n'avez fait aucune... D'ailleurs, très souvent dans le livre, il y a des passages... C'est en provençal, c'est oui. Ça. Et après, en dessous, bon, forcément, il y a la traduction française, parce que Absolument. Tout le monde ne comprend pas le provençal. Et pourquoi ce souhait de au mot près, quoi, la virgule près? Vous dites que la moindre petite intonation, vous l'avez gardée. Enfin,
Mais ça me paraissait important d'être... dans l'exactitude.
Pour être au plus près de ce oui. qu'elle vous...
Après, il y a peut-être quelque chose qu'on peut dire, c'est que ces dames, bon, elles habitaient dans le village toutes les deux, dans notre village, où on connaît beaucoup de monde, mais elles recevaient aussi beaucoup de gens, parce qu'elles avaient eu une vie assez riche, organiser des mariages, faire les couvertures de naissance, enfin, c'était des personnes un petit peu... qui recevait, qui faisait salon, et elle racontait ses histoires, et ses histoires, on en a entendu. Donc moi, en tant qu'enfant, mes sœurs, enfin, toute la tribu des carrés relatifs, on a tous entendu ces histoires. Et je pense que... Enfin, il y a eu un intérêt certain de retrouver exactement les personnages tels qu'ils étaient dans l'histoire. Et c'était pas des histoires, que tout le monde pourrait raconter, à mon avis. C'est des histoires qu'elles avaient glanées, qu'elles avaient savamment... pas orchestré, mais qu'elle, à force de les raconter, elle savait que ça produisait aussi de l'effet. Il y avait du spectaculaire dedans. Il y avait des choses. C'était pas purement familial. C'était un peu plus élargi.
Il y a quand même beaucoup. Voilà. Après, oui, voilà. Elles élargissent aux voisins. Il y a des petits potèges aussi de temps en temps.
Oui, oui, auquel il fallait mettre un terme.
C'est vous qui le dites, et qu'elles ont une langue acérée, oui, voilà. Enfin, je n'osais pas le dire.
Voilà, en même temps, des talents de conteuse aussi, quelque part, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et de conteuse en binôme, qui se donnait la réplique en permanence.
Et qui se coupait la parole éventuellement, si j'ai bien compris.
C'était assez chouette, oui.
Et donc, vous, comme ça, c'est assez... Des fois, elles sautent du coq à l'âne, si on peut dire, dans leur conversation, où l'une parle d'autre chose, enfin, dont vous, je sais pas comment vous vous débrouillez avec, mais enfin, voilà. Donc, comme ça, il y a des personnages, dont il y a leur histoire, bon, votre histoire aussi, puisque il y a quand même au départ un rapport familial, et vous voulez savoir justement comment vos parents, vos grands-parents, comment ils avaient aussi vécu cette période, et donc elle avait des anecdotes de temps en temps, des fois des choses un peu plus profondes, si je puis dire, dont elle raconte tout ça. Et puis après, c'est avec tout ce que suppose dans l'horreur de la guerre, dont tous ces hommes relativement jeunes, en bonne santé, dirons-nous, qui étaient sur le front. Donc le village se retrouve avec les personnes très âgées, les femmes et les enfants. Et donc les femmes devaient faire face à... devaient s'occuper de tout le monde, si je puis dire, et faire en sorte que tout le monde puisse survivre, entre guillemets.
Oui, je crois que c'est pour ça que ce livre me paraît important, c'est normal.
Vous l'avez écrit.
C'est moi qui l'ai écrit. Mais il est important parce que c'est des paroles de femmes, quand même. Mmh. On a ce bouquin qui traîne, qui est remarquable, Paroles de Poilu.
Oui. Mmh.
Mais qui sont des paroles d'hommes...
Qui étaient au front.
Qui étaient au front, et, ou de leurs femmes qui leur répondent.
Oui, de leur courrier, oui, leur correspondance, mais, oui, c'est vrai.
Alors que là, c'est une parole diagonale, presque, mmh. sur la réalité de la guerre. Mmh. Qui fait que, elles n'étaient pas complètement impliquées dans la guerre, mais elles en subissaient les contre-coups au village.
Oui, parce qu'il y avait des gens qui mouraient quasi quotidiennement, des gens plus ou moins proches.
Tous les mois. Quoi.
Oui.
On avait un mort par mois.
Des gens
à peu près.
Très jeunes.
Très jeunes, puis il n'y avait plus d'hommes. Enfin, bon, ça,
et ceux qui après sont revenus, mais ils sont revenus souvent avec de lourds handicaps, quoi, ou des membres amputés, enfin...
Absolument. Avec des membres amputés ou des esprits complètement
dérangés.
Que ce soit le frère des tantes, la Rouvière, qui se levait à 3 heures du matin et qui se mettait sur sa table en dormant à moitié, pour éviter les cauchemars. Mmh. Que ce soit ceux dont on raconte l'histoire du gars qui a tué son beau-frère pour une question de costume.
Oui.
Je veux dire, il devait en avoir gros dedans, celui-là, quoi, pour...
Oui, parce qu'il voulait, pour préciser, il voulait que son frère lui ramène un costume tout neuf de la ville, et le monsieur qui était censé aller à la ville, enfin qui allait à la ville, lui a dit, mais pourquoi, pour aller au café, pourquoi as-tu besoin d'un joli costume? Donc il lui a pas ramené son... Et il l'a... Enfin...
Donc il devait y avoir...
Des ressentiments, vous voulez dire des...
Oui, et en même temps, ça renvoie à une réalité dont on parle pas souvent, mais qu'ont investigué des amis qui font des recherches à Narbonne, je crois, il y a un groupe de recherche. Mm-hmm. C'est comment les poilus, dont on dit l'héroïsme tout le temps, en fait, ils passaient des heures à s'ennuyer. Ils lisaient.
Ils écrivaient beaucoup.
Ils écrivaient pas mal.
Ils dessinaient. Du bricolage, si on peut dire.
Voilà.
Ce qu'ils pouvaient, mais bon.
Mais d'une part, c'était le farniente quand même. Et d'autre part, il y avait ce goût du sang et ce danger, cette espèce d'horreur à deux faces qui était pour eux et pour les autres, quoi, je vais aller tuer ou je vais me faire tuer, qu'ils ont ramené de la guerre. Et c'est pas étonnant que ce personnage, pour une question futile de costume, ait tué son beau-frère. C'est pas son frère, c'est son beau-frère planqué en plus. Bon, ce qui devait pas avoir arrangé le rapport.
La situation.
Hein. Voilà. Donc, c'est bien un regard comme ça qu'on a sur la guerre, quoi. Un regard que j'appelle diagonal, faute de mieux, hein, mais bon.
Mais ne pensez, parce que, moi, notamment, puisque vous avez évoqué les lettres des poilus, moi, je me souviens avoir lu, parce que certains extraits, où il y avait des soldats, c'était des jeunes hommes, quoi, enfin, qui étaient partis, bon, avec l'idée à l'époque où ils allaient, la fleur au fusil, c'est le cas de dire, et en 2 mois, ils allaient régler tout ça, et puis ils revenaient, voilà, et puis après, bon, la vérité a été tout autre, et où, dans certaines lettres, il y avait des qui décrivaient l'horreur de la guerre, et qui se rendaient compte qu'ils étaient utilisés, exploités, enfin,
Oui, le courrier était quand même largement censuré.
Oui, mais enfin, moi, je me souviens que j'ai lu dans les lettres des poilus de certaines... puis là, il y avait... Parce que là, comment... En 2014, il y a eu beaucoup de spectacles, y compris au théâtre, et entrait... Bon, voilà, on en pense ce que l'on pense, mais c'était comme ça. Et moi, je me souviens avoir vu quelque chose à la CAF Poésie, où c'était deux comédiens qui, en fait... avaient les lettres de leur grand-père, et puis après des textes à côté, et il y avait toute... toute cette horreur décrite quoi, de ce qui se passait quotidiennement, des souffrances, des copains qu'ils étaient obligés de les laisser où ils étaient, parce que voilà, il fallait qu'ils aient, sinon ils se faisaient tout. Enfin, je veux dire que tous n'ont pas... J'ai l'impression, enfin, moi ce que j'en avais perçu à ce moment-là, c'était que beaucoup de personnes peut-être qui étaient, à qui on avait, comment dire, parce qu'il y avait aussi l'idéologie de l'époque, du moment, qui faisait qu'il fallait aller combattre, hein, mais après, ayant vécu l'histoire en réel, si je puis dire, en sont largement revenus, quoi, de ces idées de... Enfin, il me semble...
Oui, peut-être.
Alors après, c'est variable en fonction des individus. Bien sûr, chacun réagit comme...
Peut-être que les pièces de théâtre anticipaient un peu.
Non, mais c'était à partir... C'était
les lettres, oui.
Oui, c'était mis en espace. C'était pas une pièce créée de A à Z, c'était à partir de lettres.
Non, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y avait ce grand couteau que chaque poilu avait pour nettoyer les tranchées. Mm-hmm. Ça voulait dire pour aller achever... Quand on prenait une tranchée, il fallait achever l'ennemi. Mm. Donc ils avaient des couteaux qui faisaient 50 ou 60 cm et avec lesquels on égorgeait les gens qui se trouvaient dans la tranchée. Il y avait, par ailleurs, bon, avec le très beau film là, Joyeux Noël,
oui.
Il y a eu des fraternisations.
Oui, entre armée française et armée allemande.
Mais ça, on n'en parlait pas, parce qu'après, les gens qui ont fraternisé, les soldats qui ont fraternisé, ont été très lourdement punis. Mm. Donc on ne s'en vantait pas dans les lettres. Mm. Il y a eu aussi les soulèvements contre les gradés.
Mm, oui,
parfois,
vous le dites, oui.
Parfois, à la montée de la tranchée, on tuait le gradé. Mm. Mais on n'allait pas s'en vanter non plus de ça. Mm. Hein. Mm-hmm.
Donc, après, quand on voit le livre sur les poilus, là, Parole de poilus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages aussi, effectivement, qui donnent des... Les gens n'étaient pas dupes, quoi. Mmh. Ils étaient envoyés pour une cause improbable, dans des conditions de mort quasi certaines, dans quelques fois, puisqu'il faut dire qu'entre deux tranchées, il y avait des mines partout, des barbelés. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est ça, c'est les témoignages de gens qui se disent... Qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? C'est pas notre guerre, mais de toute façon, on y est. Puis,
oui, ils étaient, ils pouvaient pas.
Voilà. Et donc.
Après, vous avez... Alors, il y avait deux questions, parce que vous dites que. Vous... Enfin, si j'ai bien compris vos propos, que peut-être le fait d'avoir eu ces témoignages donc, de ces deux femmes qui étaient vos tantes, donc qui étaient des proches, qui vous racontaient avec même détail les décès qu'il y a eu au sein de votre famille, puisqu'il y en a eu, et ensuite aussi dans le village, et dans tout ce que cela supposait, et vous dites que c'est peut-être là qu'est née votre... comment dirais-je, votre haine de la guerre, enfin votre anti-militarisme, que votre esprit de... pacifiste. Et vous pouvez me l'expliquer, le fait, parce que vous dites que c'est sûrement d'avoir reçu la parole de ces deux femmes qui a peut-être déclenché ou vraiment le...
Ah ben oui, parce que c'était la peinture qu'elle faisait de l'horreur du village.
À cette époque-là.
Dans enfin... le deuil. Mmh. D'une part, et puis il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est le personnage du déserteur.
Oui, mais j'allais y venir,
D'accord.
Ça allait être ma seconde question.
Non, donc c'est un peu lui aussi qui a fait que...
Que vous êtes dit, il y avait d'autres possibilités d'envisager
la chose.
Oui.
Il y avait autre chose que de partir à la guerre, il y avait autre chose que de tuer les autres.
Les braves gens, en tout cas.
Oui, et puis moi j'ai fait toute une recherche aussi sur le... Sur les politisations, sur Jaurès, etc., tout ce qu'il y a eu avant. Quoi. Mmh.
Oui, ces gens qui disaient qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de guerre.
Voilà, j'avais en même temps cette parole dans l'oreille et en même temps une recherche très sérieuse. Quoi. Ce qui fait que...
Oui, une recherche plus historique.
Bon,
plus,
en plus, donc, quand on m'a enfermé dans un lycée à 12 ans, Ça a fini de me
rendre... Ah, enfermé, oui, quand vous avez été pensionnaire.
Pensionnaire.
Oui, d'accord, oui, pardon.
Donc complètement réfractaire à tout ordre...
À toute loi, entre guillemets, à toute...
Toute loi établie, quoi, oui. Mm.
D'accord. Vous parliez donc du déserteur, mais aussi ce jeune homme dont sa maman est, mourante et qui lui veut rester auprès de sa maman. Et tout le monde, et ça c'est l'idéologie de l'époque, lui dit que non, son devoir c'est d'aller à la guerre. Donc son père, donc, qui est quand même très proche, ensuite il y a le maire qui vient,
le maire du village.
Et donc on lui dit que non, parce que pour lui c'était important d'être auprès de sa maman, et puis on lui dit que non, que sa place c'est sur le front. Donc il part, et en fait il meurt très vite. Hein. Et après, dans le livre, c'est à peu près quelques pages après, donc après vous évoquez le déserteur, donc de ce jeune homme qui s'est caché, qui vivait des fois en faisant de petits larcins, parce qu'il fallait bien qu'il se nourrisse. Et...
Oui, mais qui
lui, a
la pression était tellement forte, oui, aussi qu'il a mal fini. Quoi.
Le déserteur, oui.
Je veux dire, c'était pas possible d'avoir raison. Maintenant, on pourrait avoir raison, puisque Hollande, il fait des cérémonies sur la fraternisation, des choses comme ça.
Mais il y avait aussi, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il y avait aussi, quand Jospin était, je pense que c'était Premier ministre, c'était lui qui avait, fait une, comment peut-on dire, une commémoration, enfin je ne sais pas si c'est le terme, Mezza, pour ces gens justement qui avaient refusé d'aller se battre et qui souvent étaient fusillés, pour l'exemple, entre guillemets, je précise. Et il avait, enfin... Ça avait été, à ma connaissance, un des premiers, peut-être, politiques ayant un rôle assez important, après on en pense ce qu'on en pense, mais à le dire, à le mentionner, et dire qu'il fallait aussi se souvenir de ces hommes-là qui refusaient de, qui posaient leurs armes.
Bien sûr. Oui, parce qu'il y en a eu quand même pas mal de fusillés, pour l'exemple.
Il y en a eu pas mal de fusillés, oui.
Sans compter tous ceux qu'on a envoyés à Cayenne aussi.
Oui, ça c'est encore autre chose.
Qu'on ne tuait pas, mais qu'on envoyait au bagne.
On mettait au loin, oui. Et donc, vous disiez oui, que le. Voilà, votre dernière phrase, c'était que le déserteur, il avait aussi mal fini, parce que c'était, la pression était trop intense.
Ben oui, il n'était pas. Il ne pouvait pas revendiquer ce.
Ce statut, enfin, cette position.
Cette position, comme on a. On le faisait, nous, quand on était gamin, quand on lisait les illustrés sur cartouche, sur les grands. Sur l'anglais, comment il s'appelle
Mandrin,
oui, mais... Donc, il pouvait pas... C'était pas un personnage glorieux. Quoi. C'est un personnage qui...
Oui, il avait désobéi, il était considéré comme un traître, pratiquement.
Et il continuait à être la victime de l'ordre moral.
Il faut dire que cet ordre moral, dans les villages, jusque dans les années 60, d'ailleurs, 70, était très, très, très fort, quoi. Puisque, quand même, l'Église, celui qui se risquait à ne pas aller à l'Église encourait de lourdes peines de commérage, voire pire. Effectivement, moi j'ai appris par ces tantes-là que feignant à table, feignant au travail. Quand on travaille dans les champs, oui, il faut bien manger et pour pouvoir bien travailler. On est finalement, on respecte un ordre séculaire qui est quand même où l'homme, n'est qu'un tout petit individu qui doit se donner. Et bien sûr, à l'époque, la tête des armées, je parle du maréchal Pétain en 14, c'était le père de tous ces gens-là qui donnait les indications.
Oui, il y avait cette histoire aussi patriarcale, en fait,
voilà,
quelque part, quoi, oui. Avec ce que ça suppose, oui, qui est toute une... une idéologie.
Oui. Et donc, où le paysan, mal instruit, qui se base sur l'almanach des PTT pour déterminer les périodes de lune, se sentait vraiment petit. Donc, cet état tout-puissant qui apportait...
Tout venait d'en haut, vous voulez dire ?
Voilà. C'est ce qu'il fallait faire.
Et puis là, nous en revenons à ce que vous disiez peut-être au tout début... Quand les gens ne possèdent pas bien les mots et leur sens, c'est sûr que c'est difficile de pouvoir protester, contester, enfin voilà quoi. Puisque les mots induisent des idées, enfin renvoient à des idées, encore faut-il avoir la connaissance des mots en question.
Voilà. Mais... Ça n'a pas empêché Marcelin Albert de faire des révoltes contre l'État.
Après, il y a toujours des gens d'être cette
des communistes, des syndicalistes.
Qui ont
des gens
plus qui ont... je sais pas, de poigne ou plus d'audace ou de courage, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, ou qui savent, mais ça, c'est autre chose.
Oui, non. Ce livre est quand même. Bon, si j'ai retranscrit ces cassettes, si j'ai fait des textes de liaison, c'était quand même dans une grande colère. Mmh. Une grande colère parce qu'on avait eu cette unanimité très, très malsaine après les premiers attentats, là, où on avait à côté Netanyahou, Hollande, toute la...
Vous voulez dire en France, en janvier 2015.
Voilà.
D'accord.
Donc c'est un peu à partir de cette
colère.
Donc
vous étiez qu'il y avait quelque chose qui clochait là, c'est ça, d'avoir tous ces chefs d'État qui étaient avec le peuple, pour faire simple, c'est
donc,
ça.
Donc j'ai repris cette idée de
publier le livre.
De publier le livre parce que je pensais qu'il y avait une conscientisation à faire sur cette époque-là. Mmh. Alors,
parce que donc jusqu'à présent, bon, parce que là, les enregistrements que vous avez faits il y a un certain temps, puisque donc maintenant ces deux dames sont décédées aussi, et vous les aviez dans un carton, si je puis dire, et vous aviez pas trouvé le moment opportun de le faire publier.
Absolument. Et surtout, j'avais pas encore tout à fait l'idée de leur exploitation entre guillemets. C'est-à-dire que je n'avais pas l'idée des textes qui
allaient les accompagner,
qui allaient les relier.
Les textes de lien, d'accord.
Qui allaient être, proprement parlé, des conscientisations. Mm. Quand je parle, peut-être qu'on va, on va voir ce soir, peut-être en théâtre forum, quoi. Mm. Mais le jeune homme qui ne veut pas partir et ses parents, etc., ça se discute, quoi. Mm. Ça se discute et voir qui a raison. Et si on fait la suite des opérations, on s'aperçoit que maintenant, il est question d'envoyer la moitié de la jeunesse dans les casernes actuellement. Mm-hmm. Donc la discussion serait très riche de savoir s'il faut faire la guerre, s'il faut bombarder comme on bombarde actuellement, ou s'il y a d'autres solutions,
possibilités, d'autres approches, oui, voilà. Par la négociation.
Donc d'où l'importance de celui qui a refusé, du refusnik, quoi. Mmh. D'où l'importance aussi de la femme qui a un enfant et qui n'a pas envie de faire comme les autres. Mmh. Il y a quand même un certain nombre de figures, d'où l'accidenté, mon oncle que j'aimais tant, qui n'a pas pu aller dans une caserne. Mmh. Parce que sa constitution refusait le régime militaire. Quoi. Mmh. Donc tous ces personnages-là. Mais bon, quand je présentais le livre à Rochefort.
Mmh. Rochefort, c'est le village où...
Rochefort, c'est le village.
C'est le village où vivaient les deux dames, c'est ça.
Hein. Et Rochefort-Bulgare.
Où je suis né.
D'accord.
Mais c'était un peu gentil, un peu veillé d'estomère, un peu. Donc, il fallait...
Donner une impulsion...
Je suis content d'être venu ici.
Un grand coup de pied, au fond, vous voulez dire ?
Content d'être venu à votre radio pour pouvoir dire plus largement ce que j'en pense, quand même. Dire que cette guerre était une guerre infâme.
Comme toutes les guerres.
Dire qu'on est dans une logique actuellement...
Belliqueuse.
Belliqueuse et flicarde, parce que...
Oui, voir au tas d'urgence et tout ça, vous voulez dire.
Oui, s'il y avait que les belliqueux, ma foi, qui se démerdent. Mais ceux-là, il faut aussi quand même qu'on soit comme eux, qu'on
adhère à leur idée.
Et ça me paraît extrêmement grave. Et...
Non, là, c'est très, les mesures sont très liberticides, c'est sûr. Là.
Absolument.
Ça, c'est, il ne faut pas être, il me semble, très... Enfin, avoir fait de longues études pour comprendre ça, quoi, parce que c'est vraiment...
Et c'est relativement facile à relier à ce qui se passait à cette époque-là. Relativement facile, je dis, c'est pas évident. Mm. Mais c'est vrai que le jeune homme qui peut pas partir, qui veut pas partir et qui part quand même...
D'ailleurs, le jeune homme dont la maman
dont
est
la maman
mourante.
Mourir, ouais. Il obéit à un ordre qu'on sent maintenant, là, qu'on sent arriver après les attentats.
Oui, c'est-à-dire au nom de la sacrée union, entre guillemets, oubliez vos principes éventuellement ou vos choses les plus profondes. Parce que là, le jeune homme, bon, il estimait que sa maman était mourante, donc sa place était auprès. Et c'était noble de sa part, je trouve.
Oui, c'était son humanité à lui dire j'attends que ma mère soit décédée ou qu'on soit enseveli. Donc, c'était la négation de son humanité.
Oui, oui.
Et bon, je pense aussi qu'il y a beaucoup de négation de notre humanité avec toutes les mesures qui sont prises actuellement.
Oui. Et de notre pensée aussi, enfin voilà, oui, c'est vrai que Valls, pour ne pas le nommer, dit souvent qu'il faut être unis, rester unis pour lutter contre le chômage, il faut rester unis. Mais je veux dire, oui, l'union a bon dos dans ces cas-là, quoi, parce que ça peut mener à...
Ah oui, je ne dis pas l'union, je dis l'unanimité en plus.
Oui, enfin, bon, c'est moi qui ai dit l'union.
Plus... Non, non, mais c'est plus fort que...
Oui, c'est oui. Vrai qu'il y a une logique guerrière qui est un peu inquiétante.
Il ne faut pas qu'il y ait... Comment on dit, qui dépasse.
De voix discordantes.
Oui.
Il ne faut pas qu'il y ait de têtes qui dépassent.
Oui.
Bon, heureusement, il y a des Fershad Majid qui écrivent aussi des poèmes, enfin des textes pour l'union, mais qui, c'est une union plutôt pacifiste. Et... Dieu merci.
Et c'est vrai que là aussi, quand ils disent qu'il faut, enfin, vous parlez d'unanimité, rester ensemble pour justement faire. Pour faire front, entre guillemets, il y a aussi cette figure du chef quoi, qui se décide. Moi, je sais parce que je suis donc Premier ministre et donc je sais ce qu'il faut faire pour mon pays et donc il faut m'écouter. En gros, si... Bon, je traduis de façon très schématique, mais ça revient quand même à peu près à ça, quoi.
Absolument.
Et de ne pas écouter donc, tout un chacun avec sa capacité de développer une pensée, d'analyser et aussi, oui, de voir s'il n'y a pas une autre solution, oui. Parce que là, par rapport à tous les attentats qui ont endeuillé la France, c'est vrai, y a-t-il pas une... Enfin, en ce moment, on a l'impression qu'ils sont... Soit, je sais pas, soit ils sont complètement débordés, soit alors ils sont, je sais plus dans quelle optique, mais ils font à peu près tout et n'importe quoi, quoi.
Bon, il y a l'état d'urgence,
il y a la déchéance. Enfin, c'est quand même assez terrible comme hypothèse. Oui, en plus, oui.
Dommage.
Oui, oui, non, c'est des mesures absolument...
Qui nous renvoie à un autre temps, oui, et pour France, pays des droits de l'homme, et entre ça en prend un sacré coup, si je puis dire.
Oui, oui, je trouve que c'est une bonne façon d'en parler que de repartir sur ce qui s'est passé, l'assassinat de Jaurès choses-là, quoi. Mm-hmm.
C'est-à-dire ces paroles, ces hommes qui avaient des paroles sages, vous voulez dire? Qu'on n'écoutait pas en 1914 et qu'à l'heure actuelle, les paroles, enfin, les gens qui ont comme ça une autre optique aussi, on a tendance à vouloir les faire taire. C'est ça que vous voulez dire.
Absolument.
C'est cette approche-là que vous voulez défendre.
Et je trouve que là, je laboure un champ très stérile que de faire de la conscientisation sur les gens de 14-18. Mm-hmm. Mais en même temps, je trouve que même si c'est pas grand chose, c'est absolument nécessaire, quoi. Si
on... C'est un peu un petit caillou, hein, quand...
Oui, oui. Puis je trouve que c'est tellement répandu qu'ils avaient raison, que Bazaine avait raison, que Pétain avait raison, qu'on ne pouvait pas faire autrement, que des choses comme ça. Je trouve que la contestation de ces choses-là, alors qu'elles ont toujours été données comme évidentes, comme la vérité, je trouve que les contester, c'est déjà faire une petite entorse à l'ordre moral. Quoi.
Et comment concevez-vous alors, quelle est votre position par rapport, bon, ça c'était en 1914, donc Première Guerre mondiale, ensuite, bon, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, et donc tous ces gens, les résistants, comment les voyez-vous, quelle approche en avez-vous? Puisque bon, parmi les résistants, c'était très vaste. Au départ, il y en avait très peu. Et puis après, comme aurait dit José Arthur, juste à la fin de la guerre, tout le monde l'était. Alors qu'on sait très bien qu'il y en a eu très peu, quoi, aussi.
Non, je pense qu'il y a une résistance qui était absolument nécessaire. On ne pouvait pas, par rapport au nazisme, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Personnellement, c'est vrai que j'aurais été dans cette situation, j'aurais été résistant. Mais ce qui ne veut pas dire que les anciens de 14 qui respectaient le peuple allemand, qui avaient vécu très bien en captivité, leur position pouvait être entendue peut-être, quoi.
Oui.
C'est vrai que très souvent ils étaient taxés quand même de... des défaitistes, de collabos.
Vous voulez dire, vous parlez des pacifistes.
Oui.
Oui, d'accord. Oui, oui, ils étaient...
Des gens qui étaient, qui avaient 20 ans en 14 et qui en avaient 60 en 40, peut-être.
Oui, même pas 60, d'ailleurs. Oui, puis les femmes, même, pour une femme pacifiste, c'était une insulte. Hein.
Mais on en revient toujours aux mots aussi. Qu'est-ce que cela suppose? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours... voilà. On en revient toujours à votre amour des mots, en fait.
Absolument.
Donc, parce que là, je vois que l'heure avance et je pense qu'il faut que je rentre à l'antenne à 14h. Hein, oui, c'est ça, Thierry. Donc, pour avoir ce soir à... Alors ça, c'est après le repas. Hein, c'est après... Donc, c'est à 21h, c'est ça?
On a dit 21h30.
Que Frédéric Gambin dira... des poèmes, et c'est à partir... Et vous aussi, vous allez dire des extraits de votre livre ou pas? Ou vous allez dire, ou vous allez compter? Êtes conteur aussi, vous m'aviez dit au téléphone.
Oui, oui, mais il y a même des contes dans le... Il y a même deux contes
dans votre récit. Oui, mais là, oui.
En fait, non, ils ont travaillé ensemble, ils ont préparé un spectacle conjoint, en fait. Hein,
parce que moi, le...
Ce qui est superbe, non, c'est que Frédéric, il s'est saisi...
De vos textes
De certains détails du texte.
Oui,
pour en faire des poèmes.
Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oui.
Ils sont magnifiques. Mm-hmm. Et ça donne, je veux dire, c'est intéressant de voir comment on peut passer d'une évocation minimale à un poème...
Universel? Non, c'est pas ça.
Non, un poème presque chanté. D'ailleurs, je crois que ça lui arrive avec ma fille Françoise de chanter les poèmes,
de les mettre en musique, ou sur la poitrine.
Moi, j'ai beaucoup. Moi, je fais des poèmes, mais c'est lourd, c'est lent, c'est pesant. Bon, c'est pas léger, c'est pas bon. Tout juste ce qui rime, c'est. Tout
alors, il y a
c'est...
justement un duo, Frédéric Gambin, Françoise Carré, qui est sur le site d'Artifocal, que j'ai mis en ligne, que Fred m'a envoyé. Et
bon. Françoise, c'est votre sœur.
C'est ma sœur.
Et ma fille.
On est aussi un peu en famille, mais c'est pas grave. Et Frédéric, c'est quelqu'un, d'abord, qui a une très belle voix et qui a aussi
une
capacité à écrire des poèmes. Il a écrit quelques poèmes qui ont été publiés dans
des
revues.
Mais il a une belle diction aussi, parce qu'il m'a envoyé les extraits.
Ouais,
c'est vrai qu'il a
ouais. Et franchement, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui gagne à être rencontré. Et j'espère qu'il arrivera à développer cette activité de poète.
Parce qu'il sera là ce soir à 21h30 avec vous.
Oui.
Et vous allez dire, et vous aussi vous allez prendre la parole ce soir,
oui,
enfin, en dehors de la présentation.
On ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas si je vais lire du texte, et si mon épouse Claire va lire du texte, et si on va greffer de la poésie là-dessus, les poèmes qu'il a fait. Enfin, on va voir.
Vous verrez sur le moment, d'accord.
Et l'autre idée, c'est quand même si les gens sont d'accord qu'on puisse faire du théâtre forum sur la scène actuelle ou réactualisée au XXe siècle. On peut très bien laisser tomber la guerre de 14 et faire du théâtre forum sur le fait qu'on va envoyer la moitié des jeunes au service militaire.
Militaire ou civique?
Civique.
Non, je pense à quelque chose, parce que jusqu'à présent, je peux ne pas savoir tout, enfin ne pas avoir une information aurait pu m'échapper, donc c'était pour ça. Alors après, qu'attend-on par service civique? Là aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, quoi? Tout est là, c'est... Oui, je sais. Pardon. Donc, maintenant, allez hop, puisque vous aviez... Maintenant, prenez la parole, Artifocal, allez hop.
Artifocal. Alors... Oui, donc tout ça pour dire qu'on a...
Vous lancez l'association ce soir, c'est ça?
Alors, c'est le festival de lancement d'Artifocal. Donc, Artifocal qui est un collectif dont le but est d'aider à la diffusion et à la production de l'art, voilà.
C'est-à-dire photo et peinture?
Photo, peinture, sculpture, et ça, jusque-là, le texte
qui
vient de se rajouter. Donc, en fait...
Quel est le statut d'Artifocal?
Artifocal, c'est une association.
Ok, loi 1901.
Loi 1901, qu'on a montée
avec
Chantal Blancpain
en
2015. Et donc, on a peaufiné les statuts de façon à pouvoir recevoir aussi bien des amateurs que, on l'espère, des artistes professionnels et pouvoir créer justement des événements d'art qui permettent...
Des expositions, des rencontres.
Voilà, des rencontres. Aujourd'hui, donc, dans les locaux de la radio, c'est notre coup d'essai, mais il y a quatre expositions.
Trois exposantes, un exposant.
Voilà.
Une exposante peinture, trois en photo.
Trois en photo, voilà. Donc on est reparti sur l'abstraction. Aujourd'hui, on fait cette soirée donc qui démarre à 19h30. Présentation signature du livre. Repas provençal, puisqu'on est en Provence. Donc on a fait une daube, maison.
Enfin, votre papa est provençal. Enfin, vous êtes né en Provence.
Voilà. Enfin voilà, Avignon, c'est
pour
le dernier découpage.
Pour recycler, oui, ça c'est autre chose.
Oui, je dis pour Languedoc, Roussillon, Midi Pyrénées. Et ensuite, donc, le spectacle dont vous avez parlé, voilà. Donc, et alors, il y aura aussi la semaine prochaine, à 19h30, un débat sur l'abstraction. On invite les artistes et les non-artistes qui sont intéressés par, justement, l'abstraction en art, à venir débattre avec nous. Et on servira aussi un petit repas sur place, voilà.
Donc, et là, c'est à quelle heure, la semaine prochaine?
Le rendez-vous initial était à 19h30. Après, on pense démarrer un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on peut-être on fera une période, on démarrera pas tout de suite, pour la bonne raison qu'il y a le salon au 22 que nous avons, un peu malgré nous, programmé la même date que le salon, et donc nous allons démarrer un peu plus tard, peut-être vers 20h, 20h30.
D'accord.
Mais on sera là, bien sûr, à partir de 19h30 pour recevoir le public. C'est aussi, il y a les expositions, c'est un espace qui est assez agréable. Voilà.
Et je voulais justement, parce que je l'ai oublié dans le livre aussi, il y a des photos, donc qui sont des photos de famille, et c'est vous qui les avez numérisées.
Alors, pas que,
enfin,
les photos de famille, les photos du livre.
Enfin, il y en a beaucoup de photos.
Voilà, il y a aussi des photos du village, etc. Sûr. Mais effectivement, il y a eu tout
un travail de
fait. C'est-à-dire qu'on a des cousines, parmi nos nombreuses cousines du village, certaines qui sont intéressées, qui ont retrouvé des vieilles photos et qui ont fait une association pour de préservation du patrimoine ou quelque chose comme ça. Et donc, qui m'ont donné les photos il y a quelques années, en 2003. Et j'ai commencé à scanner, il y en avait des centaines, des milliers. Et on a fait une cousinade et qui était formidable parce que vous prenez des photos de 1910 et vous mettez des personnes de 70 ans qui les regardent et qui se reconnaissent enfants dessus et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et ce que j'ai à dire de ces photos, c'est qu'on les a restaurées, que je les ai restaurées donc, qu'on les a sélectionnées.
Et qu'elles sont dans l'ouvrage.
Voilà, on a travaillé sur les... on a fait attention que ce soit qu'on doit respecter le droit d'auteur. Et puis, donc, il y a des petits livrets qui sont bien représentatifs de l'époque du livre et des personnages également. Donc, effectivement, il y a de la famille, il y a les tantes, il y a des photos qui apparaissent dans les récits aussi, voilà. Et donc, c'est un complément.
Des photos en noir et blanc, il faut préciser.
Ah, en noir et blanc, évidemment, puisque...
non, mais vous auriez pu aussi recoloriser, quoi.
J'en suis pas là.
non, mais en plus, le noir et blanc, c'est magnifique. Voilà. Tout
mais c'est un très beau projet. Et je voulais dire que pour le livre, où j'ai beaucoup participé en tant que support technique, on va dire, pour les mises en page, pour les reformulations, je fais beaucoup de lectures. On a travaillé beaucoup avec Joseph. Après, avec Daniel, c'est un projet qui m'a vraiment beaucoup... beaucoup intéressé, comment passer d'histoires familiales, de les revivre, vers un recueil qui peut être un peu plus large, historique, etc. Et c'était super, super intéressant. Je te recommande à tout un chacun d'en faire autant, voilà.
Et puis c'est aussi, vous allez me dire, vous êtes d'accord, la petite histoire aussi, qui renvoie à la grande histoire aussi dans votre ouvrage. Puisque bon, au départ, à partir de quelque chose au sein de votre famille, vous élargissez le propos, si je puis dire, quoi. Pour renvoyer à l'horreur de la guerre.
Absolument. Non, juste un mot aussi pour dire que les photos, elles prennent sens dans le continuum de l'écriture.
Oui,
je veux dire, alors que c'est des instantanés... Tout d'un coup, elle rentre dans un processus d'élaboration de la psychologie de tel personnage, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais là, je pense que l'heure est venue de nous quitter. Je vous remercie, messieurs.
Mais c'est moi
C'est nous.
À bientôt.
Et à ce soir.
Oui, ce soir, à partir de 19h30.
bien voilà, sur Canal Sud 92.2, c'est la fin du magazine. C'était le dernier magazine de la semaine. Prochain rendez-vous du magazine, lundi 12h, entre 12h et 12h30, avec Claire, Selma et Eric. Puisque à 12h30 le lundi, il y a le front du lundi. Pour ma part, le magazine, ça sera pour moi mercredi en compagnie.